Afrique sont dans le dos, parce qu'ils font la gravité de la crise, peut-être que vous pouvez nous donner un peu, parler un peu de l'endroit qui pourrait quand même se monde enchanté. Après tout, on a parlé à gauche,
bien sûr. Bon, vous avez tous déjà compris que c'est pas gay, que cette situation est grave. Et encore, mon copain n'a parlé qu'à l'économie et finance. Et il n'y a pas que là que ça va mal. Et donc, je vais aggraver tout en compliquant. Avec mes condoléances à tous ceux qui sont pas assis. Le mal qu'a du mal planning, là. Disparate pour commencer. Et de revenir sur pourquoi ce bouquin a ce titre. Ce livre, nous l'avons décidé, au mois de septembre, je crois bien. Pendant l'été, quoi.
Pour une conversation
sur un point précis qui était la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. L'idée qui nous est venue, c'est que non seulement il y a. Bon, qu'on appelle la crise, je trouve très mauvais, et ne veut pas dire ce qui se passe. Enfin, pour les assez fiscales, mais en plus, personne n'y comprend rien. Je vais rester un tout petit peu là-dessus. Et tout le monde s'est trompé.
Le titre ne veut pas dire
que la gauche avait fait beaucoup de gars dans le passé que je dois cesser d'en faire maintenant.
Je veux dire, tout le monde l'a fait.
Et maintenant, et maintenant, il n'y avait plus de marge de manœuvre. Le titre veut dire qu'on ne peut plus se le permettre. Il faudrait être un fait juste. Et c'est pour ça qu'on a vu au moins. Or, vu de France, c'est un petit bout. La France n'est pas grand-chose en même temps. Toute cette crise est mondiale. Vu de France, les dégâts s'aggravent au moment de la dernière campagne présidentielle l'an dernier, en 2012. Parce que les deux candidats à chance, les deux camps, tout le monde d'ailleurs, se trompent. Ils nous ont fait tous les deux une fausse peinture. Les deux côtés, on disait, votez pour nous, et comme on est sage et modéré, on reviendra bien, la croissance va revenir. L'UPS avait aggravé son cas en chiffrant, hein. Il a raconté quelque part qu'il allait y avoir 2,5% de croissance pendant 4 ans. Chez Sarkozy, ils ont osé chiffrer, mais à la limite, c'était pire tellement l'espérance de croissance était encore plus forte. Et la logique, quand on élection d'un bon gouvernement qui ne s'occupe pas des choses, qui laisse l'économie retrouver sa confiance tranquille, et le retour de la croissance était encore plus forte. Et depuis, tout le monde est là dans la choucroute, sous en Alsace, parce qu'on a rien, c'est ça qui a là. Alors ce que nous avons fait, voulu faire, c'est pousser un cri d'alarme en disant « Oh, sortez des rêves et des fausses impressions et l'urgence. » C'est ça que dit ce livre. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde comprenne, pas seulement le gouvernement, mais l'ensemble de l'opinion. Aucun gouvernement ne peut, en démocratie, faire passer des choses que l'opinion ne comprend pas, ou pire encore que l'opinion réprouve. Et donc on est tous dans le coup. C'est pour ça, merci à Yoré Kleber, que nous multiplions ces réunions d'information. Alors, vous avez encore en droit la tête tout ce qu'il y a dit hier, qui est vrai qu'il y a une partie du total, et je voudrais, au risque de rendre un peu plus difficile à comprendre l'ensemble, vous dire d'abord pourquoi c'est pour une crise, pourquoi cette expression est idiote. Et à quoi nous faisons face en essayant pour certaines parties d'entre elles de dire un peu le pourquoi. La crise, c'est un mot qui vient du vocabulaire médical. Comme le dictionnaire vous le diront, regardez un dictionnaire, ça sort du médical et ça a été le moment chaud de la maladie, le moment de pointe, après lequel le malade ou on meurt, on réchappe. Ce qui veut dire que le fait d'employer un mot pareil évoque la non-crise. La non-crise, c'est le normal, c'est-à-dire la santé. Quand on dit crise, on dit moment de désordre ou de désorganisation par rapport à l'état normal qu'on a dans la tête. Le seul emploi de ce mot le suppose à tout le monde, premièrement que c'est temporaire, et deuxièmement qu'on sait qu'on trouvera après la fin de ce mauvais emploi.
On ne sait pas ça du tout, il se passe. Il se passe que tout change et qu'il n'est plus du tout question dans la multiplicité des domaines qu'on va avoir à regarder, plus du tout question de retrouver les choses que maintenant. Les choses changent complètement et probablement définitivement dans l'histoire humaine. Premièrement, qu'il faut bien avoir en tête. Deuxième élément. Il faudrait donc remplacer mon fils par celui de mutation ou d'évolution catastrophique. Mutation, c'est bon. Mais il y a plusieurs à la fois. Une assez belle intelligence, quand tu veux un copain, c'est un tel droit, stratégiquement dangereux. C'est comme une intelligence, il s'appelle Henri Kissinger. Et il a lâché un verdict, vous avez même dû le lire dans les Nord, tellement la France a été repris. Cette phrase assez inouïe, jamais dans son histoire, l'histoire pour les 6 000 ans qu'on connaît maintenant, c'est pas mal. Jamais dans son histoire, dans l'histoire de l'humanité, une seule génération, la nôtre, n'a eu à faire face à autant de défis, de catastrophes dans autant de domaines différents. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Et je vais, pour vous clarifier les idées, les énumérer. Parce que cette convergence d'évolution catastrophique vient de choses différentes, pas les mêmes. Il faudrait donc les traiter différemment avec des mesures spécifiques dans chaque secteur, mais elles s'aggravent les idées dont elles sont tout sur l'autre. Je vais isoler, retenez bien, 7 phénomènes complètement différents, mais qui sont en train de se conjuguer pour notre dégustation. Le premier, Pierre vient d'être longuement détaillé à ce sujet, c'est pas le plus ancien de ceux que je vais citer, mais c'est quand même dans l'ordre de la prise en conscience de ce qui se passe sur le point économique, un des plus anciens chômages. On a oublié, mais il faut le rappeler, que pendant la période que pourra ce qui est appelé les 30 glorieuses, vous vous souvenez de cette expression, vous l'avez sûrement entendu, qui date en gros 1945 à 75, ce sont les 30. Tous les pays développés, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest et Japon, étaient en plein emploi. Donc, nous l'avons tous oublié, plein emploi absolu, continué en France. Maintenant, non seulement nous avons, nous en France, une dizaine de pourcents de chômage à peu près structurel, le chiffre moyen de l'Europe est autour de 9%, les États-Unis s'affolent d'être remontés vers 9%, etc. aussi, un chômage entre 8 et 11% vivrait irréductible maintenant. Mais surtout, il est venu s'y ajouter quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, qui est la précarité du travail. Ça décrit quoi ça ? Ce mot de précarité regroupe à la fois les 60% de gens qui en parlaient dans le contrat est à moins d'un mois. Plus les temps partiels pas choisis. Vous aurez 17 heures de boulot par semaine, et comme ça, parce que le cahier des charges, le chantier, il permet ça et pas plus. Moins. Vous serez payé 17 heures. Et bien, les cas. C'est assez rare en France, vu que notre structure sociale et notre histoire, c'est plus vrai aux États-Unis, c'est vrai dans quelques pays d'Europe, où le salaire officiel est inférieur au niveau légal de la pauvreté. Tout ça, c'est la précarité. On la connaît moins que le chômage, le moins solennel. Il n'y a pas d'instrument de mesure. On fait des enquêtes tous les ans. Retenez simplement, ça fait 2 fois le chômage. Vous y ajoutez plus d'un jour sans traiter. Vous pouvez même rajouter une troisième catégorie qui a été fait un peu avec les pauvres. Un mot qui avait disparu du réel économique pendant les 30 glorieuses, pendant la grande croissance. Techniquement, les pauvres, là, c'est les adultes valides exclus du marché du travail. Ils ne sont même pas chômeurs, même pas précaires. Donc, rien du tout. Tout ça, c'est le tiers des populations actives dans tous les pays développés. États-Unis, Canada, toute l'Europe, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, dans tous les pays développés. C'est la première évolution. Elle s'est développée sur 30 ans.
Ça commence, le décrochage commence vers l'année 80, en gros. L'année même où on quitte le vrai plein emploi pour démarrer vers le chômage massif, c'est 1973-74. Ça commence à peu près en temps, ça commence juste avant le premier choc pétrolier. Et dès que ça commence avant, on se dit que le choc pétrolier, il ne faut rien. Il tout est aggravé. Il ne faut rien. Premier élément, l'évolution catastrophique. Deuxième élément, c'est une désorganisation financière générale. Ça, vous avez été consommateur attentif quand vous avez lu dans le journal que les mêmes vendeurs faisaient des faillites. Lehman Brothers s'est fait faillite à 150 milliards de dollars, la plus grosse de l'histoire du monde. C'est une faillite à 17 de millions de personnes, perdant les démobilisables avaient parfois toute leur épargne et toute leur retraite. La plus grosse. Mais il y avait eu un millier de faillites de banques entre l'Angleterre et les États-Unis en 66 et 67. La plus grosse étant Lehman Brothers. C'est un deuxième phénomène. Je n'aurai pas le temps ce soir de rentrer dans le détail de comment il est, il n'a rien à voir avec le premier, sinon que cette masse de chômage, vous l'avez vu sur les crimes, les courbes de Pierre de François-Chalet, cette masse de chômage, c'est du, et le précaire, c'est du pouvoir d'achat non obtenu. Et le fric en face, il est allé spéculer sur les marchés financiers au lieu de rémunérer le petit peuple. C'est la masse de cet argent spéculatif. C'est déséquilibre. C'est la deuxième. La troisième, parce que pour mémoire, on en parle beaucoup tôt aujourd'hui, mais c'est celle dont on parle le plus chez nous, puis c'est chez nous. Le fait qu'à la seconde, le désordre financier général dans le monde, la réponse trouvée au G20, vous vous souvenez de le nom de ce rassemblement des 20 pays les plus importants, était dire, oh là, oh là, crise des banques, on ne sait plus où on va, si les banques s'arrêtent, de faire du crédit, du fin de mois, pas seulement pour vous déployer, plutôt pour faire de l'IVPR et tout ça, on passe de la carte bancaire à la récession. Comment éviter ça? Le général a dit, on va éviter ça en appelant les contribuables. Et ce fut l'offre de la garantie publique à l'ensemble du système bancaire. Cette garantie publique offerte pour consolider les banques, elle a été aux États-Unis 70% du PIB local, du produit local. C'est gigantesque. Les États-Unis, pareil. Sur le continent européen, vous êtes toujours un tout petit peu moins fou. L'offre de garantie publique était 36%. Quelques pays, dont la France d'ailleurs, dont les banques avaient été moins irresponsables que les autres, ont fait remboursement de leur argent. Mais partout ailleurs, non. Et par conséquent, ça a augmenté beaucoup la dette publique. D'où ma troisième évolution que je vous avais dit, cette évolution mondiale, qui n'ont pas les mêmes causes, qui se produisent, qui se tamponnent les unes les autres, et ça grave. La troisième, c'est ce qu'on appelle la crise de la dette souveraine en euros. Et comme c'est à côté de chez nous, nous passons deux ans, on va quand même vous parler à peu près comme ça, en oubliant de vous parler du reste. Quand un pays très endetté ne peut plus faire face à ses dettes, mais que sa dette est en euros. Les marchés qui spéculent pour gagner du pognon sur le crédit mettent en cause l'euro, en bloc, quel que soit le signataire de la dette, bien sûr. Donc même si la Grèce est petite, une menace contre l'euro nous concerne tous. Et on a vu, vous avez vu la Grèce, on a vu sauter l'euro. C'est là que la seule des sept qui sont en train peut-être de diminuer d'importance dans le total. Mais naturellement, c'est une aggravation des deux précédentes. Mon procédé de présentation en ce moment, c'est la table des matières. J'en rajoute et je ne suis pas encore dans une explication. Je viens de vous citer trois évolutions catastrophiques. C'est pas l'une de l'autre, mais qui s'aggravent. La quatrième, rien à voir. Pas de chance que ça soit à ce moment-là. Ça s'appelle le réchauffement climatique. Vous l'avez oublié ça. La Terre est doucement en train de se transformer en polar. Au point que la vie pourrait bien, dans moins d'un millénaire, y devenir impossible. Et en tout cas, elle le deviendra à coup sûr si nous continuons à les faire les fous. Si nous continuons à faire les fous, c'est produire du gaz carbonique qui est un gaz qui a la curieuse particularité, il n'est pas seul, mais il est le plus connu, le résultat, de bloquer la chaleur que la Terre envoie vers le Soleil et de la faire rester par là. C'est bien grâce à ça que la vie est possible sur Terre. Sur Vénus, il doit faire moins 80 ou moins 120, je ne sais plus. Et en tout cas, sur Mars, il doit faire moins 200. Pourquoi? Parce que la chaleur effectivement produite par le Soleil est totalement renvoyée par la réflexion. Totalement. Le retard. Chez nous, c'est cet effet de serre qui l'a fait réfléchir ça. Avec, depuis qu'on connaît l'histoire, en gros, jour, nuit, été, hiver, nord, sud, moyenne, 15 degrés. À peu près 15 degrés. C'est nécessaire à lire. Mais quand le gaz carbonique se met à saturer l'atmosphère, nous avons déjà pris, semble-t-il, entre 0,6 et 1 degré centigrade depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Il suffit d'en prendre 2 ou 3 de plus pour que probablement le niveau des océans augmente de 4 ou 5 mètres, faisant disparaître une quinzaine de pays de la carte. Le Bangladesh, 140 millions d'habitants. Leur point d'altitude est à 5 mètres. Vous pouvez bien voir au niveau des océans monter de 6 mètres dans les nuits qui viennent. Vous avez tout compris, j'arrête. La conséquence du réchauffement climatique, c'est qu'il faudrait, si on pouvait, ne plus consommer de l'énergie fossile, de l'énergie en brûlant, produit du gaz carbonique, c'est-à-dire du charbon, du gaz ou du pétrole. Il faudrait consommer que du nucléaire, celui n'en produit pas, ou de l'éolien ou du photovoltaïque. Alors comme le nucléaire, ces dégâts ne sont pas moins le nucléaire, tuent beaucoup moins que le charbon et même moins que le pétrole, au total et tout compris. Mais ils tuent plus salement. Le cancer, c'est pas grave. Nourrissons une leucémie, un fantasme, si je veux dire, avec un flux nucléaire disproportionné. 4 pays d'Europe autour de nous, la Suède, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, je crois bien, ont prétendu arrêter leur nucléaire. Ils se renvoient vers le charbon. Ce qui va faire mourir beaucoup plus d'hommes dans ce genre d'activité. Mais on ne le dit pas. Et comme aujourd'hui, la plupart des mineurs qui sont encore dans les villes dans le monde sont en Chine, tout le monde s'en fout, ils sont chinois, ils n'ont pas besoin de regarder. Voilà l'élégance de nos rapports collectifs. Là, vous devez reprendre vos esprits, se mettre à réfléchir un peu sérieusement sur l'univers. J'arrête là-dessus, vous avez tout compris. Le seul phénomène interdit de penser à la reprise de l'économie dans les trois crises qu'on a vues avant, de manière classique comme d'habitude. Puisqu'on aurait pu avoir le droit dans le chômage. Ajoutez en ça. Notre révolution, c'est dans le même cinquième point, enfin quatrième point plutôt, que nous avons derrière nous le pic pétrolier, comme on dit, c'est-à-dire le moment déterminé par les scientifiques où la production de pétrole liquide disponible pour l'humanité est à son niveau absolument supérieur et ne peut que commencer à réduire. Parce qu'on ne retrouve que du pétrole plus profond, plus lointain, plus cher, plus difficile, et puis peut-être même moins. C'est pas très sûr, c'est l'Agence de l'énergie qui dit. Mais ça veut dire autre chose, c'est que le prix du pétrole, lui, va augmenter le prix de manière permanente et atteindre des niveaux effrayants qui vont aggraver la difficulté de la croissance. Je n'en ai fait qu'à mon quatrième point. Alors, pour bien comprendre ce que tout gouvernement aujourd'hui a à faire, pour mélanger avec les trois derniers. C'est très banal. Simplement, vous pouvez les avoir dans la tête en même temps, puisque tout vient en même temps. Le cinquième point. Le poids du monde est en train de changer de géographie. Dans toutes nos terres, c'est l'Atlantique, enfin c'est la Méditerranée d'abord. Puis l'Atlantique, l'Europe et les États-Unis. Qui pèse le plus, qui produit le plus et qui commande. Et dans 20 ans, ce sera le Pacifique et l'Asie. Dans moins de 20 ans, la moitié de toute la production du monde sera faite par Chine, l'Inde, le Japon, la Malaisie, la Indonésie, Singapour, et quelques autres. La Chine, pour la moitié de la moitié. Dans 20 ans. Le commandement du monde a changé. Ils sont majoritaires au FMI, ils sont majoritaires à l'Organisation mondiale du commerce. Et ils seront bien plus déterminants au Conseil de sécurité. Alors, c'est quoi une crise? c'est juste un changement pour lequel ce sera plus couramment, mais terrifiant. On n'a pas l'habitude, et on ne sait pas à quoi on s'expose. Et la Chine se souvient qu'on a voulu la coloniser, qu'on avait fait la guerre, nous les Français et les Anglais, pour l'objet fut de l'opium, venir enrichir quelques marchands crapuleux chez nous et s'abrutir pour plus ou moins de résistance à la colonisation. Ils se souviennent. Désagréable. C'était mon cinquième point. Ce changement de géographie change tout, y compris les conditions à lesquelles nous discutons la solution du cas précédent. Le sixième, c'est pas une crise, c'est un état de fait. Concerne la politique. En deux étapes. L'humanité n'a pas été capable d'inventer du pouvoir là où il en faudrait. La crise mondiale n'est pas un pouvoir mondial. Et l'unité de traitement est au moins continentale, et on ne sait même pas faire un pouvoir collectif, ni en Amérique latine, ni même en Amérique du Nord, un petit peu mieux en Europe, pas beaucoup mieux, et pas du tout en Afrique ou en Asie. Il n'y a pas de pouvoir là où il faudrait. Ce qui veut dire qu'on, et là, je compte une nouvelle fois, et que toutes les décisions doivent se prendre à l'unanimité, on y passe un temps. Et au-delà de la pensée sur quoi faire, il faut faire converger les intérêts qui devraient le faire pour les faire gagner contre les intérêts qui ne devraient pas le faire. Ça, c'est le sixième élément. Et le septième. Je vous jure, du septième, je ne rappellerai plus ici ce soir, enfin. Gardez-le en tête quand même, il vaut mieux. Il y a 40 ans de ça, dans cette même ville de Strasbourg, on était bien, on rigolait, c'était le pré-emploi, c'était le printemps, ça s'appelait mai 68. Tout le monde trouvait que la vie était belle, et on voulait le droit à la parole. On se battait contre les petits chefs. Les philosophes de cette époque, qui s'appelaient Marcuse, qui s'appelait aussi André Gorz, qui s'appelait Ivan Illich, qu'est-ce qu'il disait? Il disait en gros que même si on arrive à avoir une croissance rapide et une belle emploi, ce qu'on ne sait plus faire, mais qu'on avait à l'époque, une société fondée exclusivement sur l'argent ne saurait tenir longtemps. Et la société avait besoin, pour retrouver stabilité, harmonie, voie de vivre et baisse des guerres, de retrouver la dimension du non-matériel, de l'affectif. C'est ça, les 68. Les amis, c'est toujours vrai. Mais on a eu tellement d'autres trucs qu'on l'a oublié, ça nous est passé par-dessus la tête. Voilà sept ingrédients à mettre dans un bon cocktail. Yes, oui. Alors, de tout ça, il y a toujours une chose. N'engueulez pas trop les gouvernements. Ils ont rien compris. Personne n'a rien compris. Notre bouquin est une tentative de dire reprenez conscience en vous soulignant d'abord que tout est international. Regardez la France, ça n'a pas de sens. On a nos petites caractéristiques locales, pas beaucoup plus. Deuxièmement, c'est irrémédiable. Et par exemple, sur le fait qu'il n'y a plus maintenant de croissance classique, il va falloir faire avec, et le seul moyen de faire avec est probablement de reprendre le poussant, le vieux mouvement séculaire de baisse de l'énergie du travail, qui est la seule adaptation possible. Henry Keynes, l'un des plus grands dans la pensée économique contemporaine, non, anglais, hein, pas un prophète barbu, et ne sachant pas son histoire, un grand seigneur, écrivait en 1930, pendant la vie, avant la fin du siècle, écoutez cette phrase délibre, alors la fin du siècle, c'est il y a 10 ans pour nous, lui il parlait à 70 ans, avant la fin du siècle, il suffira sans doute de 3 heures par jour, ou de 15 heures par semaine de travail salarié productif pour que l'humanité subvienne à ses besoins.
Bien sûr.
Vous pouvez par convention.
C'est ce qu'on disait quand on avait 20 ans.
Baptiser du nom de chômage. La différence entre l'anticipation intelligente d'un type qui savait calculer et notre incapacité sociale à suivre le mouvement. Mais c'est là qu'on en est. De la même façon, on ne devrait plus avoir le droit d'utiliser des voitures autres que hybrides électriques. Et au passage, pour remplacer 5 ou 6 millions qui roulent sur nos routes en France, il y a des emplois à faire. Et des choses sur lesquelles on peut se précipiter. Pour cesser d'aggraver l'effet de serre, il faudrait étanchéifier toute notre charpente. Il y a 12 millions en France d'endroits où on vit. Des collectifs, des maisons. 12 millions en tout. Tous sont pas étanches. Toutes les charpentes, toutes les terrasses. Laisse passer du CO2 du chauffage de terre vers l'atmosphère. Combien de centaines de milliers d'années d'emplois, pardon. Et combien d'années pour étanchéifier tout ça. Voilà les emplois d'écologie. Voilà aussi la nouvelle, les nouveaux revenus de demain. Tout ça ferait peut-être pas beaucoup de croissance, comme je l'ai dit. Ça aidera à lire. Voilà tout l'ensemble. Alors comment ça s'est dégagé? Compliqué. Je vais dire seulement pour les deux premiers des sept problèmes. Très vite, je vais essayer. Si vous voulez, cette période inouïe, 45-75, qui avait à la fois non seulement un bel emploi, je l'ai dit à l'instant, mais aussi une croissance très rapide. 5% par an en moyenne. Bon, voilà, zéro ou quelque chose. Hein. Non, en moyenne, mais régulier autour de la moyenne. Stable. Troisièmement, tous les États étaient florissants. Quatrièmement, il n'y avait jamais de crise financière. Maintenant, ça tape tous les 4 ou 5 ans. À l'époque, jamais de crise financière. Pourquoi ça marchait si bien? Parce que on acceptait, d'abord, il y avait une grosse sécurité sociale qui sortait du marché, sortait de la nappe de crise. 40% du pouvoir d'achat des gens. La sécurité sociale garantissait la continuité pour 40% de pouvoir d'achat. Et ça fait plus maintenant, ça marche moins bien. Mais surtout, l'idée générale était de pousser les salaires. Chaque année, les gouvernements encourageaient de grandes négociations entre patrons et syndicats pour pousser les salaires vers le haut, pour les indexer sur la productivité. Parce que qui dit salaire, dit pouvoir d'achat, et qui dit pouvoir d'achat, dit consommation, ça marchait comme ça. Et ça a commencé à tourner vers les années 70 et 80 parce qu'il y a une catégorie sociale qui s'est trouvée maltraitée. Les actionnaires. Qui n'avaient pas beaucoup d'idées puisqu'on s'est payé beaucoup les salaires. Il y a un mystère dans l'économie. Elle est moins compliquée à comprendre qu'on croit l'économie. Les actionnaires ont trouvé qu'il y en avait marre. Et quand en plus ils se sont groupés, c'est une idée qui est venue à propos des actionnaires qui plaçaient leur retraite en bourse. Ce sont créés des fonds de pension. En 20 ans, cette idée a totalisé tout le capitalisme. En 20 ans, j'ai été présent de fonds de pension dans toutes les entreprises de plus de 3000 personnes dans le monde capitaliste, internationalement. On veut le pognon tout de suite. Ça ne nous intéresse pas, nous les actionnaires, nous les pensionnaires traités, qui vivront de vos dividendes. Ça ne vous intéresse pas de savoir si votre politique de change est suffisante, et surtout ça ne vous intéresse pas, que votre manière soit trop payée. Dehors, on s'est mis à parler d'externalisation, de chasser en dehors des entreprises tous les travailleurs qui n'étaient pas strictement indispensables pour dégager du dividende. En une vingtaine d'années, c'est en dernier, la part distribuée aux dividendes est passée d'un petit 5-6% de l'ensemble des résultats d'entreprise où il était encore au 20e siècle, au 15% où il était ces années dernières. Ça veut dire que c'est le chômage précarité, mais ça, oui. Ça commence comme ça. Pendant ce temps, on a le crack de la finance. Et lui, il commence en 1971. Une des caractéristiques des temps glorieux, ce qui était formidable, c'est qu'il y avait un système de change fixe. Ça marchait bien. L'humanité avait quand même inventé quelque chose de stable et de pas si mal. On l'a tout foutu en l'air, mais là, ça marchait pas mal. Un système de stable, de change fixe, parce que les États-Unis avaient imposé le dollar comme monnaie du monde au cri de stabilité et correspondance entre deux monnaies, l'autre étant l'or. La clé du système, c'était que le trésor américain rachetait tout l'or qu'on lui offrait pour payer des dettes à 35 dollars l'once. Et à partir du moment où ça dès les années 50. Vous avez vu tout à l'heure la courbe sur le déficit américain, que vous a montré Pierre. Et Pierre a fait long tirade sur jusqu'à Reagan, ça pouvait rester stable, on n'avait pas besoin d'augmenter l'endettement. Alors, quand je l'ai monté, il était déjà, vous l'avez vu, à 120% du produit brut. Ce n'est pas rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que les Américains se sont vus détenteurs de la monnaie du monde, ils sont plus fatigués et qu'ils ouvrent leur compte, c'était plus facile. Ils sentaient le déficit gigantesque. Quand a commencé la guerre d'Indochine, leur matière industrielle de faire la guerre coûtant la peau des fesses, ils ont aggravé les déficits encore. Et plus l'impossibilité de cumuler les deux. En 1961, M. Nixon dit au monde, je décroche, je vous ai promis, je m'en fous, vous voulez une monnaie internationale, prenez le dollar ou l'argent, et faites avec, il n'y a plus de correspondance. Depuis, toutes les monnaies sont devenues volatiles, tous les prix sont devenus volatiles et flottants. C'est en 71 que les États-Unis ont fait entrer le monde dans une bagarre monétaire où il est toujours. 40. 200, c'est pas mal. Devant ça, l'industrie de la finance a cherché de trouver des moyens de s'assurer et de limiter la casse. Je ne veux pas entrer en détail, c'est trop compliqué, puis je sens mon copain qui est en train de se dire que c'est un peu long tout ça. Alors là, ça va bien. Les moyens de limiter la casse, ça s'est appelé les produits dérivés. Il y en a de mille catégories, et tout le monde rigole parce que maintenant, la plupart des grands prêts d'emploi ne savent même plus ce que font leurs collaborateurs. C'est devenu un mystère. C'est quoi? C'est des manières de spéculer les uns contre les autres, de faire de l'argent sur de l'argent, et pas seulement faire de l'argent spéculant sur des matières, spéculant sur des matières. Et le système s'est pris les pieds dans le tapis. Et ça, c'est la grande crise bancaire de 2005-2008. Soyez des bonnes brokers, 2008. Vous comprenez bien que ça n'a aucun rapport avec ce que je disais à l'instant sur le chômage. Simplement, ça devient tout aggravé. Vous avez compris depuis que le coup de l'euro, le drame européen, est un succès d'année transformée locale de ces grandes crises, mais qui ne concerne que nous. On arrête. Il vaut mieux que je continue. Pas. Mais la démarche de notre livre, d'abord c'est de vous expliquer tout ça. Si vous voulez savoir un peu plus, on n'a rien fait de compliqué. Mais nous demandons à nos gouvernements de prendre conscience que nous n'avons plus devant nous la perspective d'un retour à une croissance classique. Nous savons, pour des raisons d'énergie, d'effet de serre, le prix du pétrole, en même temps de fatigue du système, pour des raisons de limitation nécessaire de la folie des banques, il va nous falloir un monde à l'économie plus stable. Et probablement un monde où on travaillera par semaine beaucoup moins, sur un moins d'activité. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Les musées le sport, tout le monde sait que notre économie marchande a bousillé notre temps libre. En nous rendant notre temps libre agréable qu'à la condition d'alerter les choses, de consommer beaucoup. Même le sport, on n'a pas mis l'argent dans les boutiques, petits équipements sportifs locaux où tout le monde pourrait faire du foot. L'argent du sport va dans le spectacle sportif. Et la culture, ça passe le spectacle, la consommation culturelle, beaucoup plus que la gratuité. C'est une société à retrouver. On la domine, on la sort à elle, elle est corrélée avec le temps libre. Il faut donc prendre son temps, comprendre, et accepter un certain nombre de régulations qui ne seront pas de recul classique vers l'expansion, vers la croissance habituelle. Voilà le message, et bonne santé à vous et bonne nuit soir. Et un content, on vous souhaite.